Le triomphe pour les Bleus sur les Champs-Élysées, cette descente des champs, elle vient de commencer au milieu de la joie populaire, une ferveur, une passion, une fierté. Nous venons de vous raconter tout cela dans le journal et on va continuer à le vivre en direct au cours de l'émission. Les joueurs, les champions du monde vont être reçus un peu plus tard à l'Élysée par Emmanuel Macron avec des milliers de jeunes. Cette fête, depuis hier soir, c'est notre thème au téléphone sonne. Comment expliquez-vous cette communion entre une équipe et un pays avec des millions de personnes qui partagent la joie de cette Coupe du Monde pour la France? Que vous apporte le bonheur de cette victoire? Est-ce la victoire tout simplement de la jeunesse? A-t-on besoin de se retrouver, de vivre ensemble un ou des événements? Est-ce que cette équipe de France nous ressemble, elle qui... Pardon pour le jeu de mots, elle qui nous rassemble. Pour répondre à toutes ces questions ce soir, vos appels et nos invités. Patrick Mignon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue du sport, ancien chercheur à l'Institut National du Sport, de l'expertise et de la performance. Jérôme Val, l'un de nos envoyés spéciaux en Russie pour vivre cette Coupe du Monde. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Pierre.
Ça va, vous tenez le coup? Que d'émotions hier.
Presque hein. la fin, exactement. On a fini en apothéose.
Et avec nous dans ce studio, Patrick Barberon, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes président de l'association sportive Erani, le football club à Erani-sur-Oise.
Tout à fait.
Et c'est le premier club du défenseur de l'équipe de France, Presnel Kimpembe. Voilà, qui est l'enfant de Beaumont-sur-Oise. On aura l'occasion de revenir sur l'histoire de votre petit club du 95.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Je vous le disais, l'équipe de France, celle qui a gagné la Coupe du Monde de football, est en train de descendre les Champs-Élysées dans ce bus bleu avec cette inscription « Champion du monde ». Mathilde Dehémy, vous êtes sur place. Et on voit qu'il y a une foule enthousiaste.
La patrouille de France, Pierre, est en train juste de passer au-dessus de l'Arc de Triomphe. Vous entendez peut-être la clameur pour nous, parce que pour les gens qui sont ici avec nous, c'est pas là qu'on voit le mieux le bus, sauf moi qui suis perché sur un escabeau. Et en l'occurrence, vous allez sûrement entendre les jets de la patrouille de France qui vont passer juste à l'instant au-dessus de nos têtes. Voilà, et puis cette fois-ci, je peux vous dire qu'ils ne se sont pas trompés dans les couleurs. On est bien sur du bleu-blanc-rouge. Bleu-blanc-rouge aussi pour la foule là, qui s'est compressée. Alors, si on avait eu un doute, nous, pour voir le bus qui est tout au fond, à 1,5 km de nous, enfin l'Arc de Triomphe, en tout cas, il y a 1,5 km de nous, maintenant il avance. Si on avait eu un doute, on ne pouvait plus la voir pendant longtemps parce qu'on a entendu cette clameur descendre jusqu'à nous, des fumigènes s'allumer de partout, des fumigènes bleu, blanc et rouge. Et pour l'instant, c'est un petit peu ce qu'on voit. Le bus est en train de traverser des nuages enthousiastes. Je suppose que, alors je vois pas, je vous promets pas de voir la Coupe du Monde de là où on est, mais les gens ont l'air vraiment de bien s'amuser avec des gens qui ont pensé à monter des drapeaux jusqu'à 3 mètres au-dessus de la foule pour qu'on voit mieux leur drapeau français que les autres. Sur la chaussée, en fait, est occupée à 3 quarts par la foule. Il y a juste un petit peu la place pour le bus sur le côté droit quand on met la Concorde dans notre dos. Et ce bus, donc, la foule sera au plus près d'eux. C'est pas la même configuration que pour le 14 juillet au défilé où les gens sont bien sur les côtés. Là, ils ont choisi une configuration où les gens seront au plus près de la foule pour communier. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en accroche de ce téléphone sonne, une communion réelle de la foule avec leurs joueurs, avec l'équipe de France championne du monde.
Mathilde Dehémy en direct des Champs-Élysées. Le bus des champions du monde progresse lentement sur les champs. Mathilde, on vous retrouvera un peu plus tard lorsque ce bus aura fait un peu plus de chemin en direction du palais de l'Élysée. Et tout de suite, on va prendre nos appels au standard du téléphone zone. Ils sont nombreux. Patrice, dans la Meuse, est avec nous. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, moi, je retiendrai trois choses. D'abord, c'est une coupe du monde qui a encore un sens, contrairement à un championnat national où il est nécessaire d'aligner les billets pour avoir une chance de gagner. Là, c'est formidable. L'essentiel à retenir de la victoire...
Pardon, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Aligner les billets, ça veut dire quoi?
Bah, c'est-à-dire que dans un championnat, si dans un club, vous ne pouvez pas aligner un minimum d'argent, vous n'avez aucune chance de gagner, à l'image du PSG ou de Marseille, vous voyez. Alors que là, dans un championnat du monde... on a une chance de gagner. La Croatie a failli gagner. Il ne s'agit pas d'acheter des joueurs. Vous comprenez ce que je veux dire. Et je crois que l'essentiel à retenir de la victoire, c'est cette vitrine du travail, du courage d'un groupe qui est très métissé, très coloré. Et c'est un exemple à transmettre aux enfants d'un pays qui est malheureusement cancérisé par le racisme. Et puis, il y a une chose qui ne peut que nous attrister, parce que chaque médaille a son revers, malheureusement, une fuite en or. Et pour peu qu'on garde un minimum de lucidité et un minimum de décence, ben, je pense que aussi, il faut oublier que pendant que le mondial se déroulait, il y a un certain Oleg Sentsov qui croupissait dans les geôles d'un dictateur qui organisait la Coupe du Monde. Et je crois qu'il y a quand même aussi parfois un peu de décence à garder. Donc c'est formidable, j'en suis réjoui, mais il faut savoir aussi raison garder, vous voyez.
Patrice, merci de nous avoir appelés pour faire ce constat. Patrick Mignon, que pensez-vous des propos de Patrice ?
Oui, oui, j'adhère en fait aux trois points et ça traduit bien les différents intérêts que peut représenter le football. C'est-à-dire qu'à la fois le dernier point, c'est la question géopolitique. Alors, on ne sait pas si Emmanuel Macron parle avec Poutine du cas, donc peut-être il y aura des nouvelles dessus. Sur le fait que l'équipe représente un travail collectif, que l'équipe représente un certain nombre de valeurs auxquelles on peut tenir, tout ça c'est des points qui sont très 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 importants et qui ont créé ce rapport entre le public et l'équipe de France. Et puis bien sûr, là on retrouve un thème qu'on connaît depuis 98, qui est le football comme moyen de lutter contre les préjugés racistes, puisqu'on a effectivement une équipe depuis très longtemps d'ailleurs en France, bien avant 98, qui est toujours faite de gens qui viennent d'ailleurs et qui font les joueurs qui portent le maillot bleu.
C'est ce courriel, à l'instant, ce sont des enfants des quartiers, symbole d'une intégration réussie pour nombre d'entre eux. Ce ne sont pas des victimes sociales, ils voulaient réussir, ils ont réussi. Sont-ils des exceptions ? Patrick Barberon.
Non. Non, moi donc effectivement président club d'Erani avec 650 licenciés, on a cette mixité. Elle est importante et elle est primordiale. Elle fait avancer les valeurs du sport. Ça, c'est une première des choses. Et le fait de côtoyer tous ces jeunes, on a une richesse qui est de plus en plus grande. Et quand on voit le résultat de l'équipe de France et de son comportement, parce que moi, quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est son comportement, le respect. Et bah, ce respect, on le doit aussi sur les clubs de football, sur les ligues, sur les districts qui ont mis en avant la formation des éducateurs. Et plus on forme, bah, plus on a effectivement des valeurs qu'on va véhiculer et qu'on va inculquer aux jeunes. Cette formation est primordiale et on en voit le résultat sur cette génération.
Nicole, bonsoir Nicole, merci d'écouter le téléphone sonne et de participer à notre émission. Bienvenue, vous êtes à Thonon-les-Bains.
C'est ça, bonsoir.
On vous écoute Nicole.
Voilà, moi je voulais témoigner que je suis pas du tout une fan de foot. J'ai même pas regardé la finale hier soir, honte à moi. Mais quelque chose qui m'agace au plus haut point depuis hier et depuis ce matin, c'est tous ces tweets, tous ces Facebook que je vois passer disant les gens sont pas descendus dans la rue pour les réformes, ou bien on espère qu'il y en aura autant contre les réformes, etc. Ça m'agace et parce que quelque part c'est il y a trop d'argent dans le foot, enfin tout ce qu'on a vu passer, vous avez dû en voir passer aussi, hein. C'est pas la question aujourd'hui. Puis ces jeunes, je veux dire, ils ont bossé, tous ces gamins, ça leur est pas tombé tout cru, ils n'ont pris l'argent à personne. En plus, si j'ai bien compris, ils vont reverser une partie de leur prime à des associations. Et je dirais que pour moi, c'est une fête de famille. Demain, les problèmes, ils seront là. Mais c'est voilà, quand on va à une fête de famille, on se réjouit, on passe du temps ensemble, même si on n'aime pas particulièrement tout le monde, mais on passe du temps. C'est une fête de famille. Et profitons de cette fête de famille. Vivons cette fête de famille. Et voilà. Et puis demain, bah, c'est sûr qu'il y aura les problèmes vont certainement revenir. J'aimerais juste que peut-être on arrive à mieux les aborder qu'en 98, où je crois on a laissé passer un peu une occasion, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Mais Nicole, vous ne regrettez pas de ne pas avoir suivi cette finale hier ?
Pas du tout. Pas du tout. Non, mais je veux dire, le foot, c'est pas mon truc. Par contre, j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé après la finale, quand tout le monde était heureux. J'ai regardé l'arrivée des Bleus par intermittence, parce que je travaillais, mais voilà, j'ai regardé ce côté bonheur, et en plus, ils sont sympas, ces gamins, parce que ils ont plus leur casque sur les oreilles et les lunettes sur le nez, ou comme les précédents, les équipes précédentes. Voilà, je les trouve sympas, ils dansent, ils chantent, ils sont vivants, ils sont heureux, ils profitent aussi. Et il faut pas oublier, le travail qu'ils ont fourni pour en arriver là, quoi.
Bon,
voilà,
très bien.
Profitons.
Débrouillez-vous quand même pour.
Et arrêtons de faire des liens avec le peuple qui n'est pas descendu dans la rue.
Bien sûr.
Enfin, je veux dire,
on a compris.
Quoi.
Mais moi, un bon conseil, débrouillez-vous, allez voir des amis quand enregistrez la finale hier et regardez ces 90 minutes, vous ne serez pas déçus. Hein. C'était quand même un spectacle étonnant, même si, et c'est vrai qu'on a reçu des courriels d'auditeurs qui nous disent si on parle purement football, là c'est Jean-Jacques qui nous dit ça, si on parle purement football et qualité de jeu, cette finale ne restera pas dans les annales. Elle fut quand même pas mal débridée. Pourquoi Jérôme Val est à Moscou?
Écoutez, ce n'était pas effectivement la plus belle des finales sur le plan du jeu. Ce n'était pas non plus la plus belle des équipes de France. L'équipe de France a beaucoup mieux joué, par exemple, en huitième de finale, en quart de finale et même en demi-finale. Seulement, il y a eu 6 buts. Ce n'était plus arrivé dans une finale depuis 1966. Donc, le but quand même du football, c'est d'inscrire des buts. Et on a été gâtés de ce point de vue-là. Mais je voulais rebondir sur les propos de l'auditrice précédente. Effectivement, hier, je crois qu'il y avait 19 millions de personnes devant leurs écrans, plus sans compter évidemment toutes les personnes qui étaient dehors, rassemblées dans les fan zones partout en France. Ce ne sont pas des personnes qui, tout au long de l'année, aiment le foot. Ce ne sont pas forcément des supporters de foot, des fanas de foot, des amateurs de foot. C'est simplement des gens, effectivement, qui avaient envie de passer un moment ensemble. Et ne demandons pas au sport plus qu'il ne peut apporter. Et là, je rejoins parfaitement l'auditrice. C'est juste un bon moment. Et effectivement, dans 2-3 jours, on passera sans doute à autre chose. Et la vraie vie, entre guillemets, reprendra son cours. Mais c'est quand même bien d'avoir vécu ça. Ça n'arrive pas si souvent puisqu'on en parle comme d'un événement exceptionnel tous les 20 ans. Donc profitons-en.
À tout à l'heure, Jérôme. Jean-Louis Aumont. Bonsoir Jean-Louis, vous êtes sur l'antenne, on vous écoute.
Bonsoir Pierre Veille, je suis très heureux de vous saluer, bonsoir à tous. Écoutez, moi je suis pas un spécialiste de foot non plus, mais j'ai quand même regardé la finale, je regarde pas beaucoup de matchs de foot, mais j'ai trouvé ce match plein de symboles. La première mi-temps, vous avez des Croates, c'est leur jeu, c'est leur choix, qui ont un jeu très agressif quand même. Moi j'ai trouvé ça très oppressant, les Français se faisaient piquer la balle d'une manière agressive par les Croates, et donc ça n'a pas empêché que du coup les Croates ont été, condamnés, puisqu'il y a eu un coup franc et un pénalty, et qu'à la mi-temps, les Français mènent 2-1. Oui. Et puis la deuxième mi-temps, les Français retrouvent, je pense, leur jeu naturel de rapidité, leur beau jeu, leur jeu offensif, et ils mettent aussi 2 buts. Et donc, ça m'a paru symbolique, si vous voulez, par rapport à la situation politique. J'exagère peut-être un peu, mais bon, j'ai bien lu des gens qui disent que le football, c'est comme les tragédies grecques. Donc, j'ai trouvé que la première mi-temps, au niveau du symbole, on pouvait la rapprocher d'un Trump qui est agressif, président Trump agressif vis-à-vis de ses alliés naturels que sont les Européens, oui. Et qui finalement peut-être perdra à ce jeu-là. Oui. Et en même temps, la deuxième mi-temps montre que les Européens, comme les Français hier, il faut qu'ils jouent leur jeu, qu'ils affirment leur volonté politique de résister à des zoukés de Trump. Et peut-être que comme Jean-Louis, ça, on marquera des buts.
Voilà, c'était de la géopolitique appliquée au football, Patrick Mignon.
C'est remarquable, c'est comme l'intervention précédente. C'est ce qui est, on voit bien ce que c'est que le football, la Coupe du Monde, c'est la possibilité de mettre sur un événement sportif des significations sur des choses qui sont plus importantes, comme justement la situation géopolitique, et d'en faire une certaine forme de lecture à partir de ce qui se passe sur un terrain de football. Ou de voir avec la personne précédente, effectivement, comment on peut ne pas aimer le football, mais en même temps comprendre que ça provoque de la joie. Et ça, c'est quand même des choses qui sont tout à fait intéressantes.
Le football et la vie, le football et la diplomatie. Il y a un courriel que je voudrais vous lire, c'est Frédéric qui nous a écrit « La boulette de Lloris qui dégage trop tard sa balle » et cela fait prendre par un Croate qui la pousse dans les buts de Lloris. C'est la vie ! Parfois, lourdement, on se plante, on fait une connerie monumentale. C'est humain, même chez les plus doués. Le foot, c'est la vie. C'est pas mal vu, ça. Jérôme Val.
Oui, il a tout à fait raison. C'est effectivement Lloris qui avait été irréprochable sur les matchs à élimination directe avec des arrêts vraiment grandioses. Eh bien oui, il s'est planté sur ce coup-là. Alors sans conséquence, heureusement, pour le résultat final. Mais oui, il s'est planté. C'est effectivement le sport, pas autre chose que la vie. Vous avez raison.
André nous a écrit « Quelle proportion des droits TV et des transferts pour les petits clubs formateurs ?» Alors là, c'est intéressant, Patrick Barberon.
Alors là, j'ai malheureusement pas la réponse parce que je n'ai pas les connaissances.
Mais je rappelle que vous dirigez le club de l'association sportive d'Éragny.
Tout à fait. Donc je sais que nous, en tant que club, quand un enfant est formé pendant jusqu'à ce qu'on appelle les U13, donc en partant un débutant jusqu'en dans ce qu'on appelle anciennement les U13, le club formateur effectivement touche une retombée sur la mise en place de ce joueur-là dans un club professionnel. Mmh. Pour Presnel, il est resté que 2 ans, c'est trop juste. On a un autre joueur qui s'appelle Balof de Touré, excusez-moi. Lui aussi est resté peu de temps, mais on est sur un autre joueur qui est parti il n'y a pas longtemps. Et là, on a un peu l'œil dessus, justement.
Lequel ?
Edoli.
Oui.
Donc voilà, justement, il va bientôt intégrer le centre de formation de Nantes. Et là, il est resté jusqu'en U12, donc là, on sera vigilant.
Parce qu'on peut s'imaginer que Prestel Kimpembe, bon, il est au PSG, avec un salaire monumental, on peut se dire que peut-être que vous avez droit, puisque vous l'avez formé, à un voilà, petit
alors,
pourcentage.
La formation, c'est 2 ans, donc la fédération de... Enfin, je ne sais pas si c'est la fédération, mais les instances, en tout cas, donc, considèrent qu'il faut un minimum de 5-6 ans pour vraiment prétendre à une formation. Donc 2 ans, c'est trop juste.
Stéphane, vous vouliez intervenir parce
oui, que c'est globalement, sur la Coupe du Monde, c'est la FIFA qui va redistribuer l'ensemble des droits sur les fédérations participantes avec toute une série de... Voilà.
Jérôme Val, à Moscou.
Oui, plus de 30 millions d'euros qui seront versés par la FIFA, effectivement, à la Fédération Française de Football. Et comme elle gère la Fédération, le sport amateur, évidemment, en tout cas, c'est le souhait, j'imagine, de tous les présidents de clubs ce soir, c'est d'avoir une partie de la manne, parce que effectivement, à la base du foot professionnel, il y a ce foot amateur, ces clubs dont on parle depuis longtemps. Maintenant, Bondy, Suresnes, Vincennes, Roissy-en-Brie, les clubs de Mbappé, Kanté, Matuidi ou Pogba, effectivement, ces clubs-là devrait quand même recevoir, devrait entrevoir également une partie de cette Coupe du Monde sous forme de subsides un peu plus importants.
Stéphane à Libourne, bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne de France Inter, dans le téléphone sonne, et c'est à vous bonsoir. Maintenant, en
oui,
direct.
J'avais juste une question à notre sociologue, parce que finalement le fait que beaucoup de Français se retrouvent dans cette équipe n'est pas lié au fait qu'ils viennent de différentes régions de France, avec différents profils, des joueurs qui explosent dès leur plus tendre enfance, d'autres qui mettent un peu plus de temps, et aussi, quelque part, c'est un peu un peu la nique à ces pays comme les États-Unis qui critiquent toutes ces vagues d'émigration. Là, on a beaucoup de joueurs qui sont issus de pays africains, d'autres pays, qui sont français. Que, j'insiste, c'est pas de propos. Ils sont français, mais issus de l'immigration, et quelque part, c'est un peu cette France Black Bomber qu'on n'aime pas trop dire depuis 98, mais elle est là, cette France-là, et elle gagne quelque part. Voilà.
Patrick Mignon.
Absolument. Non, mais là, le secret du rapprochement entre la population et l'équipe de France, elle vient de ça, c'est-à-dire que chacun peut retrouver finalement dans cette équipe de France quelque chose qui raconte aussi son histoire. Toujours à cette que le football a un rapport avec la vie, ça raconte sa propre histoire, son histoire de mobilité sociale, le rappel de ses racines, etc. Et effectivement, c'est une très belle manière de s'opposer à des tendances qui, elles, sont des tendances qui vont tendance à se reformer sur des identités bien précises. Et là, donc, on a quelque chose aussi qui est de l'ordre d'une plus grande ouverture et qui peut aussi faire plaisir.
Courriel sur le site franceinter.fr. C'est la France des quartiers populaires, des banlieues où la vie est souvent difficile, qui a gagné hier, qui fait la fierté de tout un pays. Ce ne sont pas, là, pour une fois, les grands noms du CAC 40, les élites des grandes écoles. On se retrouve dans ces joueurs. Ils sont proches de nous. Ils nous sont familiers. Patrick Mignon.
Oui, oui, oui. Ils nous sont familiers. Alors, en plus, il y a eu un très, très beau, très, très beau travail de communication, par ces joueurs, et qui a permis aussi de leur donner, quand ils s'expriment, de leur donner effectivement une densité humaine, qui a aussi beaucoup contribué à l'image positive de cette équipe, si ce n'est à son succès, parce que c'est aussi un des éléments de la dynamique de l'équipe, je pense.
Liesse populaire sur les Champs-Élysées. Les joueurs de l'équipe de France de foot ont commencé cette descente à bord de ce bus bleu champion du monde. Et on voit très, très bien sur la carrosserie du bus les 2 étoiles. Nous avons 2 fois le titre, champion du monde, 1998-2018. Et puis la prochaine étape, mais alors je ne sais pas dans combien de temps parce que le bus avance pas très vite. La prochaine étape, c'est l'Élysée, le palais de l'Élysée où Emmanuel Macron va accueillir l'équipe de France avec des centaines de jeunes qui ont été invités. Et sur place, Cyril Graziani, ben, vous attendez.
Oui, on attend. Il ne manque plus que les 23 et le staff de l'équipe de France pour que la fête puisse commencer à l'Élysée. On a aperçu il y a quelques instants Emmanuel Macron descendre avec son épouse de son bureau, ce qui signifie certainement que les joueurs sont attendus d'une minute à l'autre. On est dans la cour d'honneur du palais de l'Élysée et on entend la clameur autour des rues adjacentes, là, autour des rues du palais, ce qui signifie très certainement que le bus est en train d'arriver. Peut-être que vous l'entendez derrière moi, vous entendez cette clameur, vous entendez les cris des supporters qui ont réussi à passer partout. Ils vont retrouver les joueurs de l'équipe de France quand ils seront rentrés. D'abord, ils vont être accueillis par le président de la République. Les gardes républicains sont sur le perron, d'ailleurs, ils viennent de s'installer. Le président de la République va les accueillir avec son épouse. Il va discuter un petit peu avec eux pendant quelques minutes avant de retrouver les milliers d'invités qui, eux, attendent depuis presque des heures dans les jardins de l'Élysée pour une fête qui devrait durer, à mon avis, assez longtemps.
Le bus est tout près du palais de l'Élysée, Cyril. Il est rue du Faubourg Saint-Honoré.
Il est rue du Faubourg Saint-Honoré, donc il va arriver dans quelques instants. Peut-être que vous pourrez me reprendre tout à l'heure quand les joueurs rentreront
dans
le palais.
Bien sûr.
À tout de suite, je reste là.
Bien sûr, à tout à l'heure, Cyril. Gérard, bonsoir Gérard, vous êtes à la Motte Beuvron ?
Oui, je suis toujours là.
On vous écoute.
Bien, alors je viens d'entendre que la fédération allait recevoir 36 millions d'euros suite à la Coupe du Monde. Un tiers de cette somme va être distribué aux joueurs sous forme de primes et le reste aux clubs amateurs. Mmh. Est-ce que cette fois, contrairement à ce qui s'est passé en 1998, ces clubs amateurs qui sont encadrés par des bénévoles pourraient recevoir symboliquement un ballon, un jeu de maillot représentant cette Coupe du Monde? Ça leur ferait plaisir et les gamins seraient très heureux.
Patrick Barberon, président de l'association sportive Erani à Erani-sur-Oise.
Je vais répondre à la question concernant 98. Les retombées, effectivement, ça avait été des ballons et un jeu de maillot de mémoire. On espère beaucoup plus cette année parce que là, on a vraiment quelque chose de grandiose. Et bon, les dotations de matériel sont très importantes pour les clubs, mais on espère aussi un peu plus. Donc, on attend les retours de la fédération.
Et des questions sur le site pour vous, Patrick Barberon. Comment se fait le repérage de jeunes talents dans les petits clubs? Comment faire pour ne pas rater, pour ne pas passer à côté d'un jeune Mbappé ou Pavard?
Alors, il est
simple.
C'est
votre obsession chaque jour, ça?
Non, quand même pas. Mais là, je reviens sur l'encadrement et sur la formation des éducateurs. Quand vous avez des clubs qui vont prendre des licenciés, mais en proportion par rapport aux éducateurs et non pas faire du nombre et faire de la qualité, on est beaucoup plus vigilant quand on voit effectivement des enfants qui ont du potentiel. Et là, on a un regard un peu différent, on le change de catégorie pour voir comment il évolue. Et à ce moment-là, on appelle même les parents et on propose effectivement aux clubs professionnels ou par le biais de Clairefontaine pour qu'ils puissent faire un test. Ça, les tests sont importants.
Cyril Graziani, au palais de l'Élysée, les joueurs entrent dans la cour de l'Élysée avec la Coupe du Monde, enfin une reproduction de la Coupe du Monde, si j'ai bien compris.
Vous les attendiez, Pierre, avec impatience. Ça y est, le couple Macron vient de descendre les marches pour accueillir les joueurs de l'équipe de France, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, avec Hugo Lloris qui porte la Coupe du Monde avec le sélectionneur de l'équipe de France. Des embrassades comme hier après la finale et après la victoire de l'équipe de France. Tous les joueurs rentrent là dans cette cour d'honneur du palais de l'Élysée. Ils sont attendus en héros, on peut le dire. Le président de la République, plusieurs accolades là. Brigitte Macron qui embrasse la plupart des joueurs de l'équipe de France. Les joueurs de l'équipe de France qui vont ensuite partir quelques instants avec le président pour un bref entretien, pour discuter peut-être de l'avenir, peut-être du message que le président hier a passé quand il était dans les vestiaires, voulant faire de ces joueurs, de ces 23, les ambassadeurs des valeurs de la République française. Et, il en profite, Emmanuel Macron, il embrasse actuellement Paul Pogba, Presnel Kimpembe. Voilà, à mon avis, il va essayer d'embrasser tous les joueurs de l'équipe de France. Il va en profiter puisque, on l'avait vu hier, Emmanuel Macron est un fervent supporter de football. Et Il s'en est donné à cœur joie hier, notamment on l'a vu avec cette photo, cette fameuse photo qui a fait le tour du monde depuis hier soir. On le voit se lever, jubiler au moment du premier but de l'équipe de France. L'équipe de France, voilà, qui vient de rentrer dans son intégralité, Kylian Mbappé qui rentre dans la cour d'honneur de l'Élysée. Les joueurs donc sont attendus de l'autre côté puisque la véritable fête, elle va se dérouler de l'autre côté dans les jardins privés du palais où les attendent des milliers de personnes, notamment des milliers de jeunes venus de toute l'île de France.
Merci Cyril Graziani en direct du palais de l'Élysée. On vous retrouvera peut-être un peu plus tard pour nous raconter la suite de cette soirée à l'Élysée. À mon avis, il y aura de l'ambiance dans les jardins du palais présidentiel lorsque l'équipe de France va retrouver tous ces jeunes qui viennent de nombreux clubs sportifs. Question qui va intéresser Jérôme Val sur le site de l'émission. Jérôme, on nous demande, Mathilde, comment travaille Deschamps ? On ne nous le dit jamais. Y a-t-il de longues séances, pas sportives, mais vidéo, où ils observent les autres équipes pour travailler les stratégies de jeu? C'est des heures de travail, un travail de fourmi. Vrai ou faux, Jérôme Ball?
C'est vrai. Mais vous savez, le métier de sélectionneur, c'est très très particulier. Quand vous êtes entraîneur d'un club, vous avez vos joueurs toute la saison, toute l'année, mis à part la trêve estivale, mais vous les avez tout le temps, tous les jours, vous les voyez, vous pouvez travailler quotidiennement avec eux. Quand vous êtes sélectionneur, vous n'avez votre équipe que de temps en temps. Et donc les plages entre les moments où vous avez votre équipe à disposition sont très très longues. Et là, le travail est vraiment un travail presque de moine, de sacristain, hein, pour essayer d'adopter la stratégie, de voir quel joueur sélectionné. Puis quand vous les avez, et là pour une Coupe du Monde c'est assez exceptionnel puisqu'ils sont ensemble depuis fin mai, hein, ça fait 6-7 semaines qu'ils sont ensemble, et effectivement c'est un travail de tous les jours. Des vidéos, vous faites des séances vidéo collectives, vous faites aussi également des montages vidéo individuels que les joueurs regardent dans leur chambre. Vous êtes vraiment avec eux et sur eux, j'allais dire, 24 heures sur 24 à mettre un petit peu la pression. Et Didier Deschamps est très très fort en termes de management de joueurs, très très fort dans ce domaine. Vous savez, Didier Deschamps, même quand il était joueur, c'était un entraîneur né. Hein. Dès qu'il est arrivé au FC Nantes, on sentait qu'il avait déjà cette fibre. Et il a réussi à... Et c'est pas un hasard, finalement, s'il a réussi à décrocher la première étoile en tant que joueur et une deuxième en tant que sélectionneur.
Ah, une très bonne question sur franceinter.fr. Là, on va évoquer l'histoire du football français. C'est vrai qu'on se pose plein de questions. On nous écrit, c'est Maurice, la France, terre de football. Est-ce que tout a commencé dans les années 70 avec... Ah, ça me rappelle les souvenirs, la grande époque de Saint-Étienne, les Verts, Robert Herbin, Rocheteau, le président du club avec sa pipe, Roger Rocher. Ce club, il a suscité une formidable passion. Est-ce que c'est là le début de la grande histoire du football en France? Alors d'abord, Jérôme Ball.
Écoutez, est-ce que la France est un pays de foot? Déjà, on peut se poser la question. Est-ce que c'est un vrai pays de foot, la France, par rapport à nos voisins, ne serait-ce qu'à nos voisins, en termes de ferveur? Effectivement, il y a eu l'épisode des Verts dans les années 70 qui a soulevé une très très grande ferveur. Il y a eu après, évidemment, Marseille dans les années 80-90 avec Bernard Tapie. Et puis les titres qui ont commencé à arriver grâce à l'équipe de France. Mais est-ce qu'on est quand même au niveau en termes de ferveur, de cette cohésion autour de cette équipe de France? Est-ce qu'on est au niveau... Je parle en dehors des épisodes, évidemment, comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Est-ce qu'on est au niveau de nos voisins? C'est une question aussi qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est un vrai pays de foot?
Patrick Mignon, sur l'histoire du foot, est-ce que tout a commencé vraiment?
Non, alors, enfin, tout a commencé avec les Verts. Un peu avant, parce que le premier grand moment historique, il y en a deux. Il y en a un au niveau des clubs et un au niveau de l'équipe nationale. Au niveau des clubs, c'est l'émergence de Reims dans les années 50, qui était le grand club européen, un des grands clubs européens. Et deuxièmement, la coupe du monde de Suède en 58, dans laquelle la France a fait troisième. Voilà. Donc voilà, très très bon résultat. Et alors, pour revenir sur ce que disait Jérôme Val à propos de la France qui n'a pas la culture du foot, oui, parce que qu'est-ce qui se passe après la Suède, en quelque sorte, c'est qu'il y a une vraie crise du foot, une crise de résultats, une crise de public et une crise économique. Et beaucoup de grands clubs, dont Reims, mais dont le Havre, dont le Racing, qui sont les grands clubs, disparaissent, abandonnent le professionnalisme. Il faut revenir effectivement avec Saint-Étienne pour retrouver un nouvel élan, des clubs qui redeviennent forts et conquérants.
Un formidable courriel. Emmanuel, elle nous dit « J'ai été choqué de voir la présidente de la Croatie subir la pluie sans que personne ne vienne lui proposer un parapluie, alors que les hommes de son entourage étaient, eux, protégés. La place de la femme dans le foot et dans le monde, cette place est encore bien fragile et non reconnue. » Jérôme Ball, c'est quand même une image assez étonnante hier. Moi, j'ai été un peu surpris tout de même de voir que Poutine était protégé par un parapluie et il n'a même pas pensé la galanterie quand même. Il aurait pu proposer son parapluie, proposé par son garde du corps, à la présidente de la Croatie. Tout de même, elle est restée pendant au moins 5 minutes sous la pluie.
J'étais dans le stade, donc effectivement, on a assisté à cette scène où seul le président Poutine était protégé du parapluie. Gianni Infantino, le président de la FIFA, était trempé, complètement rincé à côté. Emmanuel Macron était quand même là aussi un petit peu
bien trempé,
mouillé.
Hein. Bien trempé.
Mouillé. Oui, oui. Et effectivement, la présidente croate, qui elle n'était pas du tout protégée, mais elle a gardé le sourire. Elle est vraiment très très souriante et elle a gardé quand même sa bonne humeur malgré la défaite de son équipe et malgré la pluie.
Voilà, et Poutine n'est pas un galant homme. À Paris, nous avons en ligne Soli. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors je voulais, moi je suis un peu de près l'équipe de France, enfin les matchs d'équipe amicale jusqu'à maintenant, amicaux, excusez-moi. Alors, à chaque fois depuis que Didier Deschamps a pris cette équipe, tout le monde est en train de dire, la France ne sort pas de grands matchs, la France joue mal, la France fait ci. Et durant tout le mondial, tous les matchs, on a toujours critiqué la France comme si elle attaque pas, elle est pas comme si, elle va comme ça. Alors, j'aimerais demander à tous les experts du foot, est-ce qu'à un moment donné, il peut pas reconnaître aujourd'hui qu'ils sont complètement plantés parce que finalement, ils ont épuisé tous les autres joueurs, ils ont gagné tous leurs matchs, ouais. Et quand je dis tout, jusqu'au dernier, est-ce qu'à un moment donné, et ces acteurs sont pas un petit peu trompés un peu tous les jours parce que finalement, ils ont été très bons, ils sont excellents à la fin.
À Jérôme Ball, à Moscou, les critiques, c'est vrai qu'on a critiqué parfois l'équipe de France. On a aussi dit qu'elle a bien joué, notamment contre l'Argentine, c'était formidable.
C'est pas nouveau, Pierre. On le sait, en France, il y a 66 millions de sélectionneurs, donc 66 millions d'opinions sur la liste à faire, sur la façon de jouer. Même les joueurs nous le disent en conférence de presse, les joueurs ils nous disent, oui, la critique, évidemment, on le sait, on sera toujours critiqué, quel que soit le résultat. Puis à un moment, eh ben, tout ça s'efface, on est comme amnésique oui. Par rapport à ça. Mais n'oublions pas qu'effectivement, lors de la phase de groupe, hein, les trois premiers matchs, Australie, Pérou et Danemark, il y a eu des critiques sur le jeu de l'équipe de France. Et avant même le mondial, personne ne voyait cette équipe de France aller au bout. Donc, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu.
Merci, Jérôme. On va aller à l'Élysée. Ambiance sur le perron, Cyril Graziani. Il y a de la fête et aussi un moment plus solennel.
Oui, quelques secondes, ils ont entonné tous ensemble sur les marches de l'Élysée, la Marseillaise, les joueurs de l'équipe de France qui sont en train de rentrer dans le palais accompagnés du président de la République et de son épouse, Olivier Giroud, qui brandit la Coupe du Monde pour la montrer aux nombreux journalistes, 300 journalistes accrédités aujourd'hui pour accueillir les nouveaux héros qui ont remporté hier cette Coupe du Monde. Pour le moment, donc, ils vont entrer dans le palais. Ils vont s'entretenir quelques instants avec le président de la République avant de retrouver tous les invités, les milliers d'invités qui patientent côté jardin pour une fête qui risque de durer, on va dire, assez longtemps.
Merci Cyril. Patrick Barberon, je reviens sur ce que disait cet auditeur à propos de cette... on a parfois critiqué la stratégie de l'équipe de France. Là encore un courriel pendant les matchs. Les joueurs français ont su subir souvent pour mieux surprendre l'adversaire ensuite. Était-ce là leur force qui ne donne pas toujours un jeu magnifique ?
Ça, c'est typiquement, j'irais français, on critique. On l'avait vu quand on avait fait la Coupe du Monde en 98. Aimé Jacquet a été critiqué comme c'est pas permis. Il a gagné la Coupe du Monde. Deschamps a eu les mêmes critiques et les joueurs ont su surpasser tout ça et justement prouver par leur capacité de dire, voilà ce qu'on sait faire et voilà notre coach ce qui nous inculque.
Je lis encore sur le site, il y a un nationalisme qui fait peur et qui se développe aujourd'hui. Celui du foot, eh ben, il est beau, il est sympa, il est chaleureux. Pourquoi cette magie de la Coupe du Monde ? Jérôme Ball, vous qui avez vécu cette Coupe du Monde ?
Oui, effectivement, c'est. Est-ce qu'on peut parler de nationalisme? Je sais pas. Je sais pas si je suis pas forcément bien placé pour le dire, mais vous savez, j'ai assisté à des matchs de la Serbie, par exemple. Là, on est aussi dans une autre forme. Est-ce que c'est la même chose qu'on vit en France? Je sais pas si on peut. Enfin, voilà. Est-ce qu'il faut exporter ce qui se passe dans un stade, dans la rue, voilà, dans un moment comme ça de cohésion? Est-ce qu'il faut l'exporter à ce sentiment nationaliste? Oui, on soutient un pays parce que c'est une équipe nationale. Mais voilà, j'ai toujours été assez perplexe quant à dire si, quand on supporte une équipe de football, on est dans un mouvement nationaliste.
Non, Patrick Mignon, je rappelle, sociologue du sport.
Non, je pense que là, on est dans quelque chose qui était pour le cadre tout à fait important, là, qui était la question de la nation. C'est une chose. Nous vivons tous. La Croatie, la France, l'Italie, dans des nations, c'est-à-dire des pays qui ont des lois particulières, qui ont une histoire et qui créent une communauté par les lois qu'elles respectent. Et donc, être une nation, c'est pas nécessairement être nationaliste. Et notamment dans le sport, on voit bien, je veux dire, les relations qu'il y avait entre le président croate et le président français, la présidente croate et le président français, c'était pas des relations de nationalisme, c'était des relations d'entente entre des pays européens. Et la Coupe du Monde de football, c'est des pays de confrontation, en même temps, ce sont des pays de fraternisation entre des équipes du monde entier. Alors, effectivement, bien sûr, dans certains pays, le nationalisme est extrêmement fort, virulent, agressif, offensif. Bon, et dans certains cas, dans le football, ça transparaît. Voilà. C'est pas le cas de ce qui s'est passé en France, à mon avis.
Magali nous a écrit: cette victoire en Coupe du Monde est aussi celle de l'esprit d'équipe. Chaque individualité s'est mise au service du collectif et c'est un élément parfois difficile à identifier dans le football aujourd'hui. Jérôme Valls, c'est quand même là le grand succès de Didier Deschamps. Il a réussi avec toutes ses personnalités, parce qu'ils ont des personnalités fortes, hein, il a réussi à créer un esprit collectif et c'est comme ça qu'on gagne.
Effectivement, il a construit un groupe. Vous savez, quand il y a 2 ans, il a décidé de ne plus sélectionner Karim Benzema, qui était pourtant à l'époque l'un des meilleurs attaquants du monde, l'attaquant du Real Madrid, pour des raisons extrasportives. Mais il a quand même choisi de ne pas le sélectionner, même si c'était le meilleur, au nom justement de la cohésion du groupe. Ben ça, c'était un geste fort qui d'ailleurs à l'époque a été longuement critiqué. Aujourd'hui, les choix de Deschamps font l'unanimité et effectivement, il a réussi à construire un groupe avec des personnalités plus ou moins fortes. Il y a l'effacé N'Golo Kanté qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre, et puis il y a des personnalités un peu plus qui s'imposent un peu plus comme Paul Pogba, mais malgré tout, à la fin, ça fait effectivement un collectif qui gagne.
Patrick Barberon, président d'un club sportif de football à Erani, dans le Val d'Oise. Ce commentaire, c'est la jeunesse dans ce qu'elle a de conquérant, de culotté, de bravache, le côté on ose qui a gagné.
Tout à fait.
Ce sont des jeunes que vous croisez tous les jours.
Ouais. C'est cette envie de gagner, de bien faire, et c'est ce qui est payant. C'est ça. Voilà ce qu'on retire du football, c'est ça. Cette cohésion qu'on peut avoir avec toute l'équipe.
Jérôme Ball, une question encore. Y a-t-il un peu d'Aimé Jacquet dans la prestation de Didier Deschamps? Il n'a plus beaucoup de temps. Hein. Aimé Jacquet, je rappelle, voilà, le sélectionneur des champions du monde de 1998.
Et son capitaine à l'époque s'appelait Didier Deschamps. Donc forcément, il y a une filiation. Didier Deschamps a beaucoup appris, notamment dans la façon de mener les hommes, a beaucoup appris. Hein. C'est un peu le fils spirituel d'Aimé Jacquet. Et il a toujours été dans cette filiation. Sauf que lui, il n'est pas parti. Il ne va pas partir sans doute après ce titre. Aimé Jacquet avait arrêté. Eh bien, Didier Deschamps devrait continuer, lui.
Merci Jérôme Val, formidable de vous avoir entendu pendant cette Coupe du Monde avec tous nos envoyés spéciaux en Russie pour vivre ce mois exceptionnel de football. C'était le téléphone sonne. Merci à nos invités Patrick Mignon, Patrick Barberon et bien sûr Jérôme Val, et à demain soir pour le téléphone sonne à 19h20. Restez avec nous sur France Inter après les informations de 20h, affaires sensibles, les rediffusions avec... ce soir, l'affaire Natacha Campouche et bien sûr Fabrice Drouel. Mais là, il est 20h et déjà 8 secondes.